La pensée et les zènes, une émission de philosophie et de morale laïque. Très chers amis, bonsoir. Nous vous avions annoncé que ces deux mois de janvier et février seraient consacrés à la pensée et les zènes, à une grande interrogation. Le 21e siècle sera-t-il pour l'Europe un siècle d'humanisme ou de barbarie? C'est en faisant le pari de l'humanisme de l'Europe que toute une série d'acteurs et surtout de signataires, personnalités qui ont porté leur accord à la déclaration du projet Europe Terre d'Humanisme qui s'est constitué en ASBL, que toutes ces personnalités ont fait le pari de trouver qu'un dialogue était possible entre des hommes de bonne volonté, afin que ce 21e siècle soit un siècle d'humanisme. Car en effet, face aux grandes interrogations de notre temps, à l'heure où la communauté européenne s'unifie à l'Ouest, les nationalismes et les intégrismes se développent à l'Est sur les ruines du communisme. Quelle doit être l'attitude d'une Europe humaniste face à ces démons? Ne faudrait-il pas que les démocrates balayent devant leurs portes? Nos replis sur des valeurs tribales nous écartent du cosmopolitisme et de l'universalisme sans lesquels il n'est pas d'humanisme. Comment lutter contre les résurgences du nationalisme et des idéologies d'exclusion à l'Ouest même? Ne faut-il pas en prendre en compte un changement important affectant le discours raciste? Jadis, le racisme était une idéologie basée sur la supériorité raciale et génétique de certains groupes humains. Aujourd'hui, le discours d'extrême droite se base plus sur les différences culturelles et l'horreur du métissage. Ne faudrait-il pas, pour lutter effectivement contre les idéologies d'exclusion, prendre la mesure de ce changement et ne pas lui opposer à notre tour un discours des différences culturelles? Ne faut-il pas éviter d'enfermer l'individu dans un groupe d'appartenance au lieu de l'ouvrir à l'universel et à la richesse du métissage culturel? En ce qui concerne l'intégrisme, ne devons-nous pas redéfinir de façon claire le concept de laïcité? Lors de l'affaire du foulard, on a assisté à ce que certains ont appelé une recolonisation de la sphère publique, laïque, universaliste, par la sphère privée, les exigences particularistes des groupes religieux. Si l'on n'est pas suffisamment attentif à un tel danger, l'espace public de la vie en commun se rétrécira rapidement. C'est en fonction de ces questions que ces hommes de bonne volonté venant de tous les bords, philosophiques et politiques, religieux, qu'ils soient catholiques, protestants, musulmans, juifs ou qu'ils soient laïcs, se sont rassemblés en octobre dernier au centre Borchette à Bruxelles. Et pendant deux jours de colloque, plus de 500 personnes ont eu le bonheur de rencontrer tous ces hommes de bonne volonté et qui dialoguent et qui ont envie, dans les mois qui viennent, dans les années qui suivent, de continuer ce dialogue au-delà de toutes les querelles, les mésententes qui pourraient encore survenir. Alors, nous allons vous faire entendre cette semaine un homme de grande envergure. Il est professeur à la Sorbonne. Monsieur Harkoum a des idées. Il considère que l'humanisme émancipateur a été vécu par les Arabes sous la période colonisatrice. Il espère que l'Europe, qui a dû et doit passer encore d'une position de dominatrice, c'est une étape historique, à une étape de solidarité historique. C'est une nécessité aujourd'hui pour l'Europe, parce que ce qui amoindrit l'homme quelque part amoindrit l'humanité tout entière. Aujourd'hui, l'Europe doit remembrer un espace social et culturel qui a été disloqué. Il a rappelé 1492 et l'expérience des Juifs d'Espagne qui, ayant été chassés essentiellement par Isabelle la catholique, ont trouvé accueil et humanisme dans le monde arabe. Et cette date de 1492 a marqué la fin de l'aventure humaniste avec une culture et une langue arabe pour l'Espagne et pour l'Europe de l'époque. Mais que reste-t-il aujourd'hui de toute cette période et de cet humanisme dans le monde arabe? Tout ceci a été occulté et il a tenté de nous montrer que, à travers l'expulsion par un courant théologico-politique de la pensée chrétienne, l'expulsion de tout cet humanisme de l'islam, nous avons perdu, nous Européens, énormément de choses, un apport extraordinaire. Et qu'aujourd'hui, la laïcité qu'il oppose à un laïcisme, comme celui de la Troisième République, doit être reconquis chaque jour. Après quelques notes musicales, nous écouterons M. Harcoun. Première question donc que j'ai posée à M. Harcoun, pouvait-il nous définir quel était ce courant théologico-politique qui a occulté l'humanisme dans l'islam?
Oui, c'est malheureusement la vérité, et c'est pourquoi je suis heureux de participer à cet important colloque qui a lieu à Bruxelles sur l'Europe terre d'humanisme, pour rappeler effectivement que dans la construction de l'Europe dans laquelle nous sommes tous engagés, et dans laquelle les peuples de la Méditerranée en particulier investissent beaucoup d'espérance, il faut absolument essayer de réintroduire toute une dimension de la pensée européenne dans laquelle l'Europe a puisé, la rétablir dans sa vérité historique, dans son importance historique, car entre le 7e siècle de l'ère chrétienne et le 13e siècle de l'ère chrétienne, ce que les historiens appellent le Haut Moyen-Âge, il s'est passé dans le Moyen-Orient, depuis l'actuel Téhéran, Shiraz, Isfahan en Iran, jusqu'à l'Irak actuel, la Mésopotamie, la Syrie, Palestine, le Liban, enfin toute cette région-là, l'Asie mineure de la Turquie actuelle, et puis vous continuez avec l'Égypte, le Maghreb, et vous remontez vers l'Espagne. Tout cet ensemble, comme vous le voyez, qui est fondamentalement lié à l'histoire des cultures, nombreuses et anciennes cultures de la Méditerranée, a vécu une page d'histoire extrêmement créatrice sous le patronage, ou si vous voulez, la domination du califat musulman, qui a régné donc exactement de 661 à Damas, ensuite 755 à Bagdad, jusqu'en 1258, chute du califat à Bagdad. Vous voyez, c'est donc une période d'histoire extrêmement longue, où la langue arabe est devenue la langue de culture et de civilisation, comme nous disons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de possibilité d'exprimer une pensée d'ordre scientifique, d'ordre intellectuel, sans passer par la langue arabe. Il y avait aussi le grec avec Byzance, bien sûr, mais la langue arabe tenait largement tête, si je puis dire, au grec, et le grec était limité justement à l'espace occupé par l'Empire byzantin, tandis que la langue arabe s'est étendue jusqu'à l'Europe, jusqu'en pleine Espagne, et ceci a duré très longtemps. Et par toutes les œuvres de science et toutes les œuvres de philosophie qui ont été créées, cet humanisme, que l'on peut donc appeler humanisme à la fois sur le plan des lettres, humanisme littéraire, comme on l'appelle en Europe, mais aussi sur le plan de la pensée philosophique, va passer en Europe chrétienne, à partir du XIIIe siècle. Voilà le cheminement historique exact. Eh bien, dans nos universités, nous n'enseignons pas ça comme ça.
Je pense.
Nous sautons d'Aristote et de Platon vers Descartes, qui est le début de la modernité, le début justement de l'humanisme européen, Montaigne, Rabelais, etc. Et nous continuons bien sûr la marche triomphale de cet humanisme. Quand je dis triomphale, il faut entendre hégémonique.
Je pense que 1492 est pour vous une date fatale en quelque sorte, puisqu'elle marque la chute du royaume de Grenade, mais aussi la volonté d'expansion du christianisme et la fin en fait de cette remarquable possibilité pour des hommes, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, de se rencontrer, de discuter, d'avoir une pensée, une culture, bref, de tolérance.
C'est tout à fait exact, et c'est cela, c'est cette tolérance qui a permis, comme vous venez de le dire, à des confessions religieuses concurrentes théologiquement, mais malgré ce monopole de la vérité que chaque communauté a voulu garder pour elle, il y a eu des confrontations théologiques sous une forme libre qui ont donné lieu à toute une littérature qui aujourd'hui nous impressionne. Avec par exemple Maïmonide, le penseur juif, Averroès, le penseur musulman, dont Thomas d'Aquin, chrétien au XIIIe siècle, va justement hériter. Il y a là une page d'histoire que nous devons absolument enseigner aux citoyens de l'Europe. Pourquoi ? Pour donner une base historique, une base intellectuelle, une base culturelle à l'aventure commune, spirituelle et intellectuelle, vécue dans une ère culturelle qui s'étend sans discontinuité et sans rupture depuis l'Iran que j'ai mentionné jusqu'à l'Atlantique, jusqu'à l'Espagne, remontant vers la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, puisque ces pays-là ont accueilli cet humanisme d'expression arabe qui s'est développé dans cette période que je viens de mentionner. C'est ce remembrement d'une ère culturelle et intellectuelle qu'il est urgent de faire en introduisant dans les programmes d'histoire de la philosophie, les programmes d'histoire des théologies. Ça, c'est important. Parce que nous continuons, même en Europe, à enseigner les théologies pour l'édification de chaque communauté, pour maintenir ce que chaque communauté appelle l'orthodoxie. Ce que j'appelle, moi, de mes voeux, et pourquoi je lutte depuis longtemps, c'est une anthropologie religieuse qui étudie les textes fondateurs des trois religions avec les interrogations, les méthodes de l'anthropologie, de la linguistique, de la sémiotique, de l'histoire critique qui renouvelleront complètement notre compréhension du phénomène religieux. Au lieu de perpétuer ces clivages de nature idéologique et ces exclusions mutuelles fondées sur des systèmes théologiques dogmatiques non encore soumis à cette critique historique malgré l'intervention de ce que nous appelons la laïcité en Europe. La laïcité, fondamentalement, c'est cette liberté du regard de l'homme sur ses créations, liberté qui s'accompagne de l'exigence critique de ce que l'homme crée dans les sociétés en le proposant aux hommes comme étant l'expression de la vérité, alors que en réalité, il s'agit de mythologie, de dérive idéologique à des fins de pouvoir. Et ça, c'est ce que les sciences sociales montrent aujourd'hui, l'anthropologie, la sociologie, la linguistique en particulier. Voilà pourquoi il faut réinterroger les discours théologiques et les enseigner de cette façon, pas pour faire du catéchisme, mais faire autre chose. Et ça, c'est une condition, à mes yeux, intellectuelle de la construction du nouvel espace européen. Et je suis désolé que mes collègues, enseignants et chercheurs des universités européennes, et encore moins les hommes politiques qui s'occupent de cette construction de l'Europe, n'évoquent pas la base intellectuelle indispensable à la construction de l'Europe qui ouvrira, pour la première fois dans l'histoire de cette pensée et cette culture européenne, l'espace de nouvelles confrontations qui se dérouleront comme dans ce haut Moyen-Âge musulman, entre des confessions et des communautés qui ont absolument un intérêt urgent à dépasser les clivages qualifiés de théologiques et de religieux, alors qu'ils sont essentiellement idéologiques, dont nous ne sommes pas encore sortis. Et c'est une chance que doit offrir l'Europe si elle veut être un grand dessein pour les jeunes et qu'elle ne soit pas seulement un marché commun destiné à lutter sur le plan de l'hégémonie économique et monétaire face au Japon et aux États-Unis, comme on nous en parle. C'est certes important, mais ça n'est pas décisif. Ça n'est pas avec ça que la construction européenne sera un grand dessein qui soulèvera l'esprit des jeunes.
Connaître son histoire, se comprendre pour bâtir ensemble une Europe qui n'irait pas simplement vers l'Est, mais aussi vers la Méditerranée, vers le Sud, parce que c'est tous ensemble qu'il faut construire notre futur. Et je pense que dans la scène d'ailleurs, il y a eu une intervention qui parlait de cette responsabilité qu'avait l'Europe de l'Ouest, de la CE actuellement, de ne pas oublier le Sud et surtout d'avoir le courage de prendre position face aux problèmes économiques, mais aussi aux intégrismes montants, parce que si nous ne reconnaissons pas chez nous l'Europe, les parts d'humanisme que la civilisation arabe a pu apporter, c'est sans doute que nous prêtons le flanc et nous permettons aujourd'hui à des intégristes de tous bords de tenter de rejeter des voiles d'obscurantisme. Nous faisons leur révolution.
Absolument, vous dites quelque chose d'extrêmement important. Je suis heureux de l'entendre de la bouche d'une journaliste. C'est ainsi en effet que les journalistes devraient présenter les enjeux actuels de la construction de l'Europe. Parce qu'il ne faut pas priver des peuples de leur identité. Il ne faut pas les opprimer sur le plan de leur vie intérieure, spirituelle, des valeurs. Il faut au contraire ouvrir les possibilités de confrontation pour soumettre ces valeurs aux critiques nécessaires. Mais pas apporter avec cette arrogance, dont l'Europe, hélas, ne se départit pas, un modèle de civilisation et de culture comme on est en train de le faire. Voyez comment toute l'Europe a dénoncé ce qui s'est passé en Algérie quand on a arrêté ce qu'on appelle le processus démocratique. La façon dont cet événement est présenté au public européen est intolérable parce que ça repose sur l'arrogance d'un modèle de la démocratie qui fonctionnerait en Europe et qui serait reproductible tel qu'il est expérimenté en Europe dans toutes les autres sociétés. C'est inadmissible. Surtout de la part d'un pays comme la France, qui tout de même a inscrit une histoire française sur la terre d'Algérie, et qui est la première à être normalement la médiatrice auprès des autres pays européens pour expliquer les enjeux actuels des combats que les Algériens sont en train de mener, qui sont des combats créateurs et positifs, que je compare aux combats des Français durant la Révolution. C'est tragique, il y a des hommes qui meurent, il y a des hommes et des femmes qui souffrent, mais c'est à travers cette tragédie, malheureusement, et la violence de ces luttes, que les hommes parviennent à prendre conscience des enjeux véritables de leur histoire. Laissons donc aux Algériens la liberté de faire leur expérience comme ils sont en train de la faire et de dépasser justement les fausses consciences, les fausses valeurs dans laquelle les a emprisonnés l'histoire coloniale d'abord et ensuite l'État-nation-parti comme je l'appelle, qu'il faut dénoncer avec la dernière vigueur parce qu'il a causé beaucoup de mal justement aux Algériens comme ailleurs dans d'autres pays. Ça n'est pas l'Algérie seulement qui connaît hélas l'expérience douloureuse de l'État-nation-parti. Laissons à l'Algérie la possibilité de s'exprimer et de produire son histoire par ses propres volontés et ses propres ressources, de même que tous les pays européens ont produit leur histoire sans les interventions extérieures et sans les modèles qui leur seraient venus de l'extérieur. Pourquoi donc ces autres peuples n'auraient-ils pas, eux, la possibilité de faire la même chose? Bien sûr, le regard critique est nécessaire, on ne le refuse pas, à condition qu'ils prennent en compte toutes les responsabilités historiques qui ont noué les drames et les tragédies que les Algériens sont en train de vivre aujourd'hui. Mais présenter cela uniquement comme on l'a fait, en disant on a interrompu le processus démocratique, c'est pas possible, ces gens-là ne peuvent pas connaître la démocratie parce qu'il y a l'islam, parce qu'il y a la violence, etc. Ça, c'est intolérable. C'est l'arrogance.
Une question, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Si vous voulez, j'effacerai ou j'éteindrai. Pensez-vous qu'aujourd'hui, comme en 1492, il y ait en Europe un courant qui ait peur de cet humanisme que l'on trouve dans l'islam et qui pourrait, à un moment donné, attirer, même en Europe, comme en Afrique actuellement, énormément de croyants et d'hommes, plutôt que de prendre part, comme aujourd'hui, à la chrétienté?
C'est ce que vous dites est effectivement inscrit dans les trajectoires historiques développées de part et d'autre dans le monde méditerranéen, la trajectoire islamique et la trajectoire chrétienne reliée par ce que nous appelons aujourd'hui l'Europe sécularisée ou l'Europe laïque. Il y a là des luttes qui ont duré des siècles sur justement des modèles qui fonctionneraient. Mais justement, quelle position avoir devant ces représentations des imaginaires construits de part et d'autre par tout ce que nous appelons nos héritages culturels respectifs? Quelle attitude tenir? L'attitude, c'est celle de cet humanisme critique, pratique, vécu, qui consiste à dire acceptons la confrontation, loyale, décidée, lucide et critique. Et à travers cette confrontation, nous pouvons nous libérer des mythologisations de nos modèles respectifs, sur lesquels nous nous appuyons encore aujourd'hui pour perpétuer les peurs, cultiver les peurs d'un côté et l'accusation violente de l'autre côté, comme cela s'est fait durant les années 50, les années 60. La guerre d'Algérie est un grand événement qui touche l'Europe, qui touche l'histoire de l'Europe et le fonctionnement de la pensée européenne, de même que l'écroulement du communisme touche la pensée européenne. Et la pensée européenne aujourd'hui n'a pas le droit de jeter le marxisme dans un gouffre comme s'il était une sorte de peste qui serait passée comme cela et dont personne n'est responsable. Marx est un penseur issu de l'histoire intellectuelle, économique et sociale de l'Europe du 19e siècle et au cœur de cette Europe hégémonique, c'est-à-dire en Allemagne et en Angleterre. Comment aujourd'hui le jeter par-dessus bord comme s'il n'appartenait pas aux racines même de la pensée européenne? Vous voyez comment l'Europe joue de sa propre tradition, comment elle fait une pression de sélection sur sa propre tradition pour sélectionner tel courant et rejeter tel autre. Il faut tout assumer dans l'histoire. La page coloniale doit être assumée aujourd'hui, dans les conséquences que nous sommes en train de vivre dans les pays colonisés hier, il n'y a pas très longtemps. Les guerres de libération doivent être assumées comme des guerres européennes, produites par les Européens. La chute du communisme et les pays de l'Est européen doit être assumée comme une histoire européenne, de cet humanisme, entre guillemets, cette fois-ci européen. Voilà les charges qui pèsent aujourd'hui sur l'Europe en voie de construction. Charge intellectuelle en premier lieu, puisqu'il s'agit de réviser, comme vous le voyez, les modalités de fonctionnement de notre intelligence elle-même. Et par conséquent, de l'enseignement qui transmet aux jeunes ces modèles du passé qui ne sont pas encore soumis à cette critique radicale et fondamentale de toutes ces notions de modèles que nous continuons de brandir pour nous exclure mutuellement et maintenir les guerres qui éclatent partout.
Une telle attitude serait la grandeur de l'Europe face à toutes ces petitesses.
Ah, mais c'est pour cela que personnellement, si je parle avec cette conviction, c'est parce que je crois que l'homme a produit des choses en Europe qui sont absolument précieuses et que je ne veux à aucun moment minimiser. Si je parle ainsi en me réclamant de la nécessité d'une reprise critique, c'est parce que l'esprit critique a grandi en Europe précisément. Et c'est pourquoi c'est la responsabilité de l'Europe qui a réalisé tout de même cet espace des libertés que nous avons et qui nous permet d'aller de l'avant. Mais nous ne pourrons pas aller de l'avant si nous ne nous convertissons pas à la notion qui m'est très chère d'une histoire solidaire, substituée à l'histoire des hégémonies, à l'histoire des exclusions. C'est ce passage qui a une valeur historique incomparable qu'il s'agit de réaliser grâce aux horizons ouverts par la construction de l'Europe. Et c'est pourquoi qu'il y a beaucoup d'intellectuels arabes, musulmans, qui investissent justement leur engagement le plus profond dans cette Europe-là, avec l'espoir de la transformer par ces énergies venant d'ailleurs et participant à l'Europe pour ouvrir une autre histoire.
Je vous remercie et j'espère que l'Europe entendra la voix de ces intellectuels. Très chers amis, nous vous demandons de prendre note de deux manifestations qui, nous en sommes certains, vous intéresseront. Le vendredi 15 janvier à 20h, le professeur Albert Moxtay nous invite à suivre sa conférence « La sorcellerie en Ardennes ». Il s'agit d'une conférence organisée par l'extension de l'ULB de Charleroi, le lieu ferme du château, à Deps, allée des Sports 12, à Loverval. Pour tout renseignement, le 071-21-32-87, donc le vendredi 15 janvier à 20h, la sorcellerie en Ardennes. Et puis nous vous convions à une manifestation unique qui aura lieu le dimanche 24 janvier à 15h au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles. Il s'agit de ce que l'on appelle 12-12 Code Europe. Dans le cadre du programme Europe Terre d'Humanisme, le Centre d'Action Laïque vous invite à la création, en première mondiale de 12-12 Code Europe, un opéra créé pour et par des enfants. Réalisation Tamara Damblon, une passionnante aventure pédagogique qui se concrétise en un spectacle original, vivant et créatif. Prix unique des places 250 francs, réservation au 02 650 56 26 pour cette manifestation unique et exceptionnelle au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles le dimanche 24 janvier à 15h. Très chers amis, Nicole Roselle et La Pensée des Hommes vous souhaitent de passer une excellente semaine. À samedi prochain. Bonsoir.